Est-ce que dans cette description que tu fais, que j'ai l'impression, c'est-à-dire que cette espèce de trajectoire de la réduction des coûts et le développement de la rentabilité, surtout la sphère, disons, de la quotidiennité du travail qui va, comme tu dis, du siège jusqu'à la gestion personnelle du management, comment est-ce que tu pourrais décrire, si tu les connais évidemment, si tu peux nous les expliquer, les étapes qui ont mené à cet passage, parce que l'open space s'intègre dans une logique managériale particulière,
ouais.
La réduction des coûts à tout prix s'aligne par rapport à une concurrence plus générale, le rôle par exemple de chef de projet, c'est tout de même un rôle de quelqu'un qui a une certaine capacité, qui en attendant ici reste quelqu'un qui a des salaires, mais la quantité de choses qu'il doit gérer est énorme. Comment tu peux résumer dans le quotidien qu'est-ce que ça veut dire?
Si tu veux, pour moi l'open space, hein, c'est en fait tu pars de quelque chose qui est cloisonné, quasi habituel, avec des trucs de 4 personnes, 2 personnes, 3, 4, à quelque chose qui ressemble de plus en plus à une usine. C'est-à-dire comme ça. Hein. C'est pour ça que je rappelais les fameuses salles de l'Opéra 6 il y a 30 ans. Hein.
Surtout comme elle se voit.
Ça ressemble de plus en plus à une chaîne sans chaîne, comme tu disais tout à l'heure. C'est un peu ça. Les salles sont immenses, sont ouvertes. On voit d'un bout à l'autre de la salle. Alors, au niveau de bruit, je ne dis pas. Hein. Ils ont beau essayer de poisonner trop plein de trucs ingénieux, mais c'est pas possible.
Sauf que c'est la meilleure grise, que c'est tout,
sauf
mais
que,
c'est
sauf
pas...
que, bon, c'est vrai, moi personnellement, j'ai jamais travaillé en usine. Mon père était ouvrier, et mon grand-père aussi. Donc, sauf qu'effectivement, il y a des phénomènes de bruit et de gêne qui sont inhérents au fait qu'on est censé travailler sur quelque chose, on est censé se concentrer. Et là, on ne peut plus.
Non, mais là, c'est cette contradiction que je n'arrive pas à comprendre, parce que, bon, il y a une prolétarisation, si tu veux, je pense pas qu'on a, que même dans ceux qui font des open space, ils savent très bien qu'il y a des bruits, etc. Donc, on ne voit jamais un arrière. Donc, à mon avis, moi, je pense pas. C'est pas explicable.
Pour moi, c'est le seul coût économique qui compte.
C'est voilà, c'est le coût économique. Voilà. Bon, le reste, ce sont des phénomènes induits. Ce sont des phénomènes induits. Il y a l'histoire des coûts, mais effectivement, nous, on a essayé de demander au RH. Mais d'où vient ce choix de déplacement des contrats, des open space, etc. Et on a mis un député, il y a une assemblée, etc. Mais ça ne veut pas. On te dit, il y a peut-être un effet de mode, un effet de vouloir à tout prix homogénéiser un certain système de travail.
Non, mais de toute façon, c'est
mais on ne comprend même pas pourquoi. Parce que c'est vrai que la rumeur, le bruit, etc., ne te permet pas de te concentrer. Donc, tu n'es pas si productif. La productivité, on massifie, mais la productivité, finalement, en fin de compte, les gens vont partir avant du travail, ça c'est sûr. Tandis que maintenant, dans leur bureau, etc., ils restent jusqu'à 8 heures du soir, ils ont l'impression d'être dans leur cocon, d'avoir un espace d'utilité, etc. Tandis que, effectivement, là, les gens disent, mais moi, oui, à 6 heures, je m'en vais, plus personne. À la limite, ils amèneront du travail chez eux, ils en feront même à 5 heures. Donc, on ne comprend pas vraiment. Voilà, c'est un point d'interrogation. Pourquoi, à part le discours financier, qui est net, 30% effectivement avant la crise, parce que maintenant, si à mon avis, s'ils vont renouveler leur loyer, c'est moins cher à la défense. Mais tout le monde le sait,
voilà,
ça.
À mon avis, c'est
que tout le monde le sait.
On compte pas le coût du déménagement.
Il y a tellement de. Les gens ne sont pas vus, puis il y a tellement de culture, il y a tellement de circulation d'idées, que ces manœuvres-là ne sont plus crédibles. Et donc, à quoi ça sert? Vraiment, je ne me demande pas si un jour ou l'autre tout ça n'implosera, parce que là, on est quand même dans un système capitaliste, démocratique, etc. Et je dirais qu'il y a des choses dont plus de légitimité, c'est dangereux aussi même. Pour le pouvoir, je pense. Alors, je comprends. Personne ne comprend. Et quand tu parles entre collègues, personne ne comprend pas. Même pas les chefs, ils ne comprennent pas pourquoi il y a un changement de ce type-là, parce que il n'y a pas d'élément rationnel, à part effectivement la diminution des coûts.
Il y a deux éléments.
Mais ça risque de venir à bout blanc, parce que cette histoire de la diminution des coûts est de moins en moins crédible. Les gens, les travailleurs intellectuels, etc.
La pression sur les coûts, en fait, c'est la conscience pour les managers que ces structures ont trop de personnes qu'il faut éliminer. Parce que c'est pas un processus d'élimination.
Il y a des gens qui
ne résisteront pas, donc faire un pari sur la non-résistance.
Déjà, dans tout phénomène de déménagement, on sait très bien qu'il y a des gens qui ne suivent pas. Ouais. Là, on a fait une enquête.
Mais ça, depuis
85% des gens qui prennent les transports en commun vont avoir 40 minutes en plus en moyenne de trajet quotidien. 85%.
Si on fait un 4
jours, je pense que pour vous, ce sera plus.
Vous savez qu'une dégradation des investissements de la ligne P, etc., comme ça,
la ligne D, bonjour.
Donc, tu as les deux.
85%. Et il y a eu 90% de taux de réponse à l'enquête, hein, donc c'est bien significatif.
Donc, en deux mots, tu veux dire, parce que on verra après la partie de l'évaluation.
En fait, on fait en sorte que les gens cherchent ailleurs. Quoi.
C'est-à-dire, en deux mots.
Mais ailleurs, tu ne trouves pas.
C'est-à-dire que quand tu l'entends, il y a deux grosses parties. La deuxième qu'on abordera, c'est les méthodes d'évaluation de la productivité. Comme s'il y a deux gros passages, le premier, c'est. Toute une série de stratégies par laquelle les réductions des coûts mais les nouveaux agencements productifs, c'est productif de l'espace, agencement des architectures à l'intérieur, sont construits comme des mécanismes pour massifier des fonctions, c'est-à-dire donc la partie réduction des coûts, mais en même temps, paradoxalement, introduit des éléments qui étaient anciens, comme tu disais, un des problèmes de l'usine, c'était le bruit. Les cadences, c'est-à-dire c'est faire mal en travaillant. Et là, le mal, c'est les nerfs, c'est l'équilibre psychologique, c'est la capacité à se concentrer. Et donc, dans ce processus, on découvre que la chose qu'on avait oublié d'imaginer, que les fonctions d'encadrement aux techniciens à un certain niveau, effectivement, ils peuvent avoir une intensité de travail, mais que rester dans un cadre correct. Et là, praticamente, è come se on découvre che tutta una serie di facteurs umains, come le gènes, plus général, les bruits, les trucs, etc., che ti hanno tutto passé, on les redécouvre. Et qu'ils se fixent dans le corps comme une fatigue ajoutée à la chose que je vous demanderai quand même, si vous avez deux minutes, d'approfondir, c'est l'autre côté, c'est-à-dire ensuite, vous êtes dans cet open space. Vous êtes à l'intérieur de cette machine. Vous êtes tendu parce que, bon, voilà, il n'y a pas un espace propre. Ensuite, vous faites votre travail. Ce travail, comment évaluer, c'est-à-dire comment on considère que ta tâche et ton résultat correspondent à une valorisation. C'est-à-dire, par exemple, comment on fait à rentabiliser un projet. Comment on l'organise. Alors, j'ai compris qu'il y a une externalisation des processus. Et à l'intérieur, quelles sont les étapes où on veut donner un projet, comment on établit un délai, comment on fixe un budget et où on gagne des sous.
Je pense que c'est aussi
Non, mais justement, dis-le.
Là aussi, moi, je suggère sur la réponse qu'ils peuvent donner de mettre en évidence, si possible, les changements entre qu'est-ce qui s'est passé dans les années 90, etc., et ce qui se passe, comme pourquoi les projets, parce que bon, chez vous, c'est les projets, hein, t'es directeur des projets aussi, non? Et chez nous aussi, tu es consultante, mais tu vois les projets aussi. Comment les choses ont changé? Comment, par exemple, les faits que tous les aspects de travailler ensemble, du collectif du travail pour réussir les projets, ça c'est peut-être, hein, ce que je constate un peu, ça se dégrade dans le sens que là aussi chacun est pour soi, que les chefs de projet, la seule chose auquel est intéressé est de, que le client il ne demande pas plus de ce qu'il a commandé et qu'il n'y a plus un collectif pour réussir le projet. Et ça, ce n'est pas être une raison sur laquelle les projets sont de plus en plus
réalisés. Non, je pense qu'il y a une atomisation, en fait.
Mais non, mais il y a un changement dans les plus radical, c'est-à-dire que, mettons, un projet, c'est surtout le réussir financier. C'est lui qui
est... Donc ça, c'est déjà...
C'est le changement principal. C'est-à-dire, avant, un chef de projet, un responsable, un coordinateur, devait avoir surtout la compétence technique, connaître... mais du coup, moi je parle d'un projet de télécom, ou bien la compétence technique pour organiser le projet en phase, etc., savoir trouver les bonnes compétences, etc., et grosso modo le client, soit interne, soit externe, est content. Depuis, effectivement, surtout depuis la 2003, la gestion de projet, ce n'est qu'une gestion financière. C'est-à-dire, tu fais d'abord ce qu'on appelle le profit and loss, tu calcules les coûts, les éléments
d'exploitation
prévisionnelle. Voilà, ça, c'est simple. C'est inventé par en Italie en 1400, la partita doppia. Entrate et uscite, voilà, c'est ça. Et maintenant, tu veux toutes les phases, l'organisation du projet en phase, etc. C'est soumis, effectivement, tu achètes le matériel, le service, etc. Tu livres, donc le client paye ce que tu as acheté avec une marge qui est définie par la direction, donc tu as des coûts internes, etc. Et ta marge doit être supérieure à celle qui sont les coûts internes. Maintenant, la compétence technique doit devenir le plus important de la compétence financière, parce qu'à la fin, il faut que le projet soit rentable. Point. Alors, quitter les ressources ou pas, quitter les outils, que ton PC aujourd'hui ne marche pas, donc tu ne peux pas travailler, peu importe, d'accord. L'important, c'est que le projet doit être livré avec cette marge de
rentabilité. Le problème, c'est qu'il n'y a pas forcément la rentabilité qui compte, c'est le délai.
Le délai, attention, parce que le délai c'est un des facteurs de la rentabilité. Parce que si tu es en retard et que tu dois mettre
un temps de ressources. Tu peux avoir un délai et avoir la moitié des choses à faire.
Oui, mais ça c'est encore des coûts. C'est-à-dire, plus tu es en retard, plus tu dois mettre du personnel pour faire des tâches, etc., plus tu dois acheter des machines, plus tu dois acheter de la sous-traitance. Parce que quand tu es en retard, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de consultants en France Télécom. C'est parce que ben, tu es en retard, tu dois te rattraper, donc tu embauches des consultants, tu embauches de la force de travail. Et ça coûte. Donc, et tu rajoutes des coûts, etc. Et à la fin, maintenant, chez nous, un directeur de projet, c'est quelqu'un qui gère tout en fonction d'un tableau financier. Ça, c'est, à mon avis, le changement le plus radical et le plus important.
Ça veut dire que lui, il n'a pas la compétence technique, il ne sait pas évaluer.
Oui, mais la compétence technique, tu peux l'acheter, tu peux...
Mais non, mais ça, là, je ne suis pas d'accord, parce que ça, c'est quelque chose
mais
que
comment
je dis.
Alors
c'est-à-dire que vous avez des gens qui sont des financiers qui ne savent pas du tout, qui n'ont plus la connaissance technique.
Oui, mais la...
c'est ne pas savent ça qui plus à quoi faire, à quoi, quel est le contenu. Comment faire.
Ça veut dire qu'à l'intérieur.
Donc ça veut dire qu'ils vont dire il faut 3 jours, alors qu'en réalité, même si on met quelqu'un qui a un doctorat, il en faut 10.
Voilà, mais ça c'est ce qu'on appelle la pression.
Si on ne peut pas faire 3 jours, parce que c'est pas possible.
Oui, mais ça ce n'est pas. Ça c'est parce qu'il a été calculé qu'il y a
3 jours
de coût. Point.
Oui,
voilà, ça
c'est
veut ça.
Dire que celui qui a fait le calcul, il connaît
celui
rien.
Celui qui a fait un projet de base, etc., qui a fait des coûts sur ce projet de base, ben, c'est ça, il faut faire ça.
C'est-à-dire
que la pression, c'est automatique.
La rentabilité dans ce type de projet n'est pas la différentielle des compétences ou des stratégies à aborder quelque chose, mais dans la réalité, les marges ils se trouvent dans la réduction du temps réel de production.
Non, c'est pas ça. Le projet doit être rentable. Les
techniciens
sont envoyés à faire des stages pour la finance, pour les non financiers.
C'est ça.
Pour le reste, tu dois te démerder. C'est ça le besoin. C'est-à-dire, là, il faut que ça soit prêt dans 3 jours, parce que c'est 3 jours coûte. C'est à toi de te démerder. T'as passé dans c'est ça la pression, c'est ça le stress.
Mais concrètement,
c'est comme la souris qui est mise en cage, qui n'a plus de. Que tu lui enlèves de l'eau au poisson.
Non, mais d'accord, mais ça
c'est ça le stress.
C'est la rentabilité, c'est-à-dire, j'ai une somme budgétaire, je dois faire un travail. Ce travail, c'est pour coûter plus, j'ai réduit le temps de travail.
Non, c'est pas la somme budgétaire. C'est-à-dire, sur ce projet-là, il faut y avoir 10% de marge.
Oui, c'est ça.
Et la somme budgétaire, c'est autre chose, parce que tu peux la réduire, alors tu réduis les coûts aussi. Mais le 5%, le 10% de marge, c'est la constante.
Ce processus-là,
vous voyez,
en fait, parce que c'est dans les études, vous connaissez la décision, etc.
Absolument.
Mais je me demande, encore en fait, la nouveauté, est-ce que ce ne sont pas les normes de direction d'entreprise qui sont diffusées dans les
études?
C'est ça le truc fondamental. C'est-à-dire que le stress qui est donné autrefois, peut-être il y a 20 ans, il s'arrêtait à un niveau plus 1, plus 2, plus 3, et maintenant, on est au niveau plus 4, plus 4.
Il y a une chose que je vais vous faire, qui va vous faire peut-être rire.
Du prolétariat à terme.
Absolument.
Hein, et c'est sur cette double que...
Dans la grille des évaluations de compétences chez Perrini, nous avons découvert une superbe perle.
Je l'ai mis dans un document que je vais diffuser.
C'est-à-dire qu'on a, comme vous, les bandes A, B, C, D, E, F. Hein, donc A, c'est débutant, B, C. Alors moi, je suis en D, parce que je ne suis plus manager. Hein. Et en fait, quand on est sur la bande B et C, on doit être capable de gérer son stress parmi les compétences qui sont requises. Et quand on est plus haut, on n'est plus obligé de savoir gérer son stress. Ça ne fait plus partie des compétences évaluées.
Et on est capable de...
Il n'y a rien sur la ligne comportementale.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils deviennent le stress responsables.
Le stress, il est redescendu dans les couches de plus en plus jeunes, quoi. De moins en moins expérimentés.